Louis.
Mettre des mots sur ce qu'on vit. Décrire des émotions. Même avec des mots a priori simples comme « j'ai peur », « je suis en colère », « je suis excitée ». Ça peut être difficile. Alors, chez Louis, quand on mène nos interviews et que les mots ne coulent pas, quand la parole des personnes qui témoignent se grippe, nous passons par les sens. On demande « où étiez-vous à ce moment-là ? Que voyez-vous ? Quelles étaient les odeurs qui vous entouraient ? Quelles sensations aviez-vous dans le dos ou aux joues ?» Et à partir de là, souvent, les mots se délient. Comme si se recentrer sur la vue, l'odorat, l'ouïe, le goût ou le toucher permettait de mettre la lumière sur des chemins empruntés, mais jamais révélés, vers nos émotions. Dans les 5 prochains épisodes d'émotions, nous allons arpenter ces chemins. 5 épisodes courts, comme des capsules pour voyager au cœur de nos sens et de nos émotions. Pour comprendre ce qui fait de nous des êtres sensoriels, que l'on ait 2, 3 ou 5 sens. Dans ce premier épisode, nous allons ouvrir grand nos yeux pour parler d'art, de beauté et de sensations. Dans sa bande dessinée « La légèreté », publiée en 2016 aux éditions d'Argo, l'autrice et dessinatrice Catherine Meurice raconte comment elle tente, en partant à Rome, de se relever du traumatisme des attentats de Charlie Hebdo. Un attentat dans lequel ses amis et collègues ont perdu la vie. Avec ce voyage, elle souhaite se provoquer le syndrome de Stendhal. Elle pense qu'en s'exposant à de nombreuses œuvres d'art, elle pourra diminuer la douleur du deuil. Le syndrome de Stendhal, c'est un ensemble de troubles physiques et psychologiques intenses, comme des tremblements, des vertiges, éprouvés par des voyageurs qui sont exposés à une ou plusieurs œuvres d'art. Une sorte de trop-plein de beauté qui rendrait littéralement malade. C'est la psychiatre italienne Graziella Magherini qui, dans les années 80, a identifié ce syndrome en soulevant ses caractéristiques. Il ne toucherait que des voyageurs loin de chez eux, plutôt des gens seuls, et en général des personnes qui entretiennent déjà une relation particulière à l'art. Dans sa bande dessinée « La légèreté », Catherine Meurice raconte, non sans humour, ses tentatives infructueuses de succomber physiquement à la beauté. Ce que nous dit aussi la dessinatrice, c'est que cette beauté est presque spirituelle. Elle écrit par exemple « À pousser les portes de toutes les églises de la ville, on deviendrait presque croyant. Non, c'est sûr, on est croyant. On succombe au plaisir de croire à la beauté. » Comment ce que nous voyons nous touche-t-il ? La vue d'une œuvre d'art peut-elle nous créer un choc émotionnel ? Et peut-on apprendre à mieux voir la beauté et la laisser imprégner nos vies ? Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotions. Pour dire cette relation si spéciale entre vue et émotion, j'ai rencontré Chloé, qui m'a raconté son histoire. Elle a une 30aine d'années et habite à Paris. Elle est directrice artistique dans la presse et dans l'édition. Comme Catherine Meurice, Chloé semble vivre dans une quête permanente de la beauté.
Moi, la beauté, en fait, est un aliment au quotidien. J'en ai besoin pour vivre, j'en ai besoin pour penser, pour créer, pour mon travail. Je dirais en fait que le sens visuel est toujours le premier, le moteur qui attire les autres en fait. Tout commence par les yeux en fait. J'ai des souvenirs de paysages, j'ai grandi à la campagne, en pleine nature. Et par exemple, oui, j'ai des milliards de détails, de couleurs. Le printemps par exemple, avec le printemps pour moi c'est du bleu, du ciel bleu, avec un éclat de jaune, des taches blanches dans le ciel qui sont donc des nuages. Des taches qui apparaissent au milieu du vert, donc qui sont des petites couleurs, du rouge, du violet, du jaune, en fonction des saisons, en fait. Donc j'ai vraiment des souvenirs qui fonctionnent par ensemble de couleurs, en fait. C'est quelque chose comme ça qui réagit, en fait, et l'émotion vient comme ça, en fait.
Attirée par le Japon depuis des années, Chloé se nourrit de nombreuses références culturelles et artistiques de ce pays. Il y a 3 ans, elle saute le pas et y part seule pendant 3 semaines.
L'enjeu, c'était d'accepter de me sentir perdue, de me perdre et de voir ce qui se passerait, en fait. C'était vraiment ça. Je voulais être seule, me perdre et voir comment je réagirais. Donc vraiment, en soi, ce n'était absolument pas une fuite de quelque chose. Je n'étais pas spécialement dans une souffrance, une tristesse, une histoire oubliée ou que sais-je. Non, c'était vraiment, l'aventure pour l'aventure. En tout cas, le voyage pour le vrai sens du voyage, en tout cas, c'est aller dans un endroit qui, bon, a priori, effectivement, m'attirait, pour ne pas savoir ce que j'allais voir, ce que j'allais rencontrer, ce que j'allais vivre. Un voyage d'une grande ouverture. Ouais, voilà. Dans une terre complètement inconnue, pour le coup. Je commence à trouver un rythme, en tout cas, de voyage dans cette perdition, mais c'est vraiment une perdition heureuse. Je me sens bien là où je suis, comme je suis, avec ce que je vois, ce que je vis, et tout va bien. Donc j'avais peu préparé, parce que ça fait partie, une fois de plus, pour moi, du sens du voyage, de choses à voir, mais j'avais noté l'existence d'une île mystérieuse, une parmi tant d'autres du Japon, où on m'avait dit, écoute, voilà, c'est une petite île qui s'appelle donc Naoshima, qui est globalement au sud du Japon, dans la mer intérieure. Une petite île où, en tout cas, il y a un ensemble de musées, de constructions artistiques, qui sont, ma foi, assez impressionnante, assez étonnante, et vraiment, c'est une expérience à vivre. Je suis donc au Japon depuis 15 jours, et progressivement, je me déplace, j'avance donc du nord au sud, à coup de TGV, à coup de TGV rapide, le Shinkansen. J'arrive à Okinawa, et je prends un bateau dans mes souvenirs, je prends un train, et j'arrive à Naoshima en fin de journée. Visiblement, c'était l'heure idéale à laquelle arriver, et j'ai très vite compris pourquoi. J'aime l'idée d'être arrivée à Naoshima globalement à la nuit tombante, puisque les sens là sont singuliers, dans le sens où on ne voit pas bien, ou en tout cas on voit d'une certaine façon. On ne voit pas, on voit pas les mêmes choses, les mêmes couleurs qu'en pleine journée. Les couleurs sont diluées, sont un petit peu tues, en tout cas sont tamisées. Et donc, c'est une certaine perception d'arriver dans un endroit inconnu, au coucher du soleil. Les couleurs sont différentes. Donc, j'aime l'idée d'arriver avec ma petite perdition avec moi, sous le bras, sur l'île de Naoshima, où je ne sais pas, en fait, ce qui va se passer. J'arrive dans mon auberge, je mange, je me couche, et on verra Naoshima demain. Naoshima est réveillée, moi avec. C'est le matin, il fait très beau, donc nous sommes, je crois, à l'automne. Vraiment, on est sur un bel été indien, un automne où il fait beau et où il n'y a personne. Et c'est super, en fait, d'avoir une île à soi, en fait. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai. Et donc, je loue un vélo et me voilà partie en jupe, basket et débardeur à vadrouiller dans toute l'île, donc qui est un petit peu vallonné, et donc découvrir l'île. Il y a, je crois, dans mes souvenirs, deux petits villages en plus de l'ensemble des grands musées. Donc là, en fait, on voit des champs, on voit des exploitations, puisqu'en fait, donc l'île donc est travaillée par la terre et par la mer. Les petits villages, eux, sont discrets, sont petits, sont sensibles, sont faits de bois et de pierre. Dans mes souvenirs, principalement, certains toits vont être en ardoise noire, ou en tout cas, je l'identifie comme tel. Quand je pédale, en tout cas, l'air frais arrive sur mes jambes, le soleil commence un petit peu à me donner des coups de soleil. Et donc, d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'en fait, je suis la seule complètement rouge, cramée à la fin de la journée parce que moi, je ne me suis pas protégée. J'ai voulu manger le soleil ou qu'il me mange, je ne sais pas. En tout cas, prendre tout ce que je pouvais de cette île-là. Donc, du coup, bref, à la fin, je finis avec un bon coup de soleil dans mes souvenirs. Je m'arrête ici et là, il y a beaucoup de criques aussi, des criques qui sont remplies de méduses, mais ça je ne le savais pas à ce moment-là. Donc moi je me baigne, c'était parfait, j'étais la seule à me baigner dans une crique, dans cette mer intérieure, c'était parfait. Et en fait, je me sens très bien, force est de constater que tout va très bien pour moi à ce moment-là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. parce que aussi, je suis partie au Japon avec pas mal de références, culturelles, intellectuelles, qui me nourrissent et qui prennent forme et qui prennent sens, en fait, que je commence à vraiment comprendre après ces plus de 2 semaines passées vraiment au Japon, donc, et qui viennent vraiment éclater, se révéler dans cette île-là. Donc voilà, tout va bien sur Naoshima, en fait. Tout va très bien et progressivement, les musées arrivent. Me voilà donc arrivée devant le musée. Donc après avoir traversé une forêt fraîche et dense et noire et verte, très, très intense en tout cas, comme couleur et ressenti, je me sens vraiment bien. Je gare mon vélo sur le côté, il y a un petit parking caché dans les bosquets. Et donc me voilà en train de gravir cette grande allée, bétonnée, pour le premier musée de cet ensemble muséal. Donc ce musée, comme les autres, a été globalement construit, pensé, dessiné par donc un très grand architecte japonais qui s'appelle Tadao Ando, donc qui est vraiment l'un des maîtres de l'architecture japonaise. Il construit principalement avec du béton. Donc le béton, une matière dans l'idée, en termes de ressenti, une matière grise, froide, dure, solide, peu confortable, peu accueillante. Mais lui, en fait, il en fait complètement autre chose. Et c'est complètement, à mon sens, japonais comme approche. Et c'est, je pense, ce qui m'a énormément... C'est pas touché, en fait. Ça m'a complètement bouleversée, en fait. J'ai beaucoup de respect pour lui et d'admiration, dans le sens où... Donc j'arrive, je marche dans cette allée. Et donc c'est une allée en béton, mais on n'est pas sur... on n'est pas sur du... qu'on s'entende, on n'est pas sur du béton dur, froid, gris, désagréable... De chantier agressif ou je ne sais quoi en termes de sensations. Non, on est sur une douceur de béton. On est sur un béton un peu ouaté, en fait. C'est un peu comme si le béton était une sorte de nuage, certes solide, très solide et très massif, mais moi, je ne me sens pas dans un entouré. En fait, je marche dans cette allée, j'avance, donc j'arrive progressivement dans l'entrée. J'évolue, je progresse dans le musée. Je ne me sens pas du tout, en fait, dans un cube de béton, en fait. Je ne me sens pas du tout enfermée. On est vraiment au milieu de ça, en fait. On est sur une sensation ronde, douce, chaleureuse, alors qu'en fait, on est sur des lignes très droites, très fines, très rectangulaires, On est vraiment sur des grandes lignes. Il faut vraiment l'imaginer, des lignes verticales, horizontales, qui montent, qui descendent. Et donc voilà, me voilà en train de marcher et progressivement, en fait, je me rends compte que cette construction, en fait, vaut pour création artistique et elle n'a en rien et uniquement qu'un bâtiment qui accueille des œuvres, en fait. Hein. Le bâtiment est une œuvre d'art en soi, donc l'expérience artistique, en fait, a déjà bien sûr commencé depuis que j'ai garé mon vélo et maintenant, depuis que je suis arrivée sur Naoshima. Donc je comprends, en fait, la délicatesse de la création de Tadao Ando, en fait, et je m'en trouve vraiment extrêmement touchée, en fait, dans le sens où c'est même pas seulement touchée, en fait, je me sens, en fait, submergée d'émotions, progressivement. En fait, c'est la somme de plein d'émotions, de beaucoup de stimulations visuelles, de mes références que j'ai invoquées, qui sont venues à moi, que je suis allée chercher, et ce bâtiment bétonné, en fait. Et le résultat, l'éclatement, la conclusion, le feu d'artifice final de tout ce voyage, je me sens parfaitement bien dans ce moment. Ce moment est absolument parfait tel qu'il est. Au milieu de ces grands murs de béton, il y a quelques ouvertures fragiles ici et là, très clairement décidées, qui donnent la vue sur le paysage. Donc on voit la mer au loin, on voit la forêt. C'est un peu comme si c'était une sorte de ruine où la nature aurait repris ses droits, sauf qu'en fait, ce n'est tout sauf une ruine, en fait. Le bâtiment est récent et il était décidé tel quel, en fait. Où c'est comme si j'étais en train de rentrer dans une église, en fait, dans un lieu très spirituel, en fait, très... très fort, en fait, où on sent qu'il y a une âme, en fait, il y a une présence, il y a une intention. Et là, à ce moment-là, en fait, c'est trop. Je me sens complètement touchée par un trop-plein d'émotions. par une justesse, par un rythme de ce que je vois, en fait. Tout est lié, en fait, tout est une sorte de symbiose, en fait. Et là, pour moi, c'est trop, en fait. Donc là, j'ai le cœur qui bat, en fait, très très fort. Je me sens extrêmement émue. Je m'autorise à lâcher prise, en fait. Laisser mes émotions venir et je me mets à pleurer, en fait. Une sorte de d'écoulement, en fait, effectivement, de larmes, de béatitude totale, en fait, de sensation d'être dans, comme si j'étais vraiment dans le cœur du cœur du cœur d'un ensemble de créations qui font sens entre elles, et déceler, en fait, cet accord, en fait, entre la nature environnante et la culture ici, décidée, choisie et rythmée entre elles, c'est extrêmement bouleversant. En tout cas, moi, ça me bouleverse, en fait. Donc, je me rends compte, étonnamment, je m'en amuse aussi, que mes jambes flagellent, en fait, je suis littéralement, en fait, en train de trembler dans un couloir de béton, toute seule. Et je trouve ça un peu ridicule. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce qui se passe? Mais allez, on y va, on accepte. On a décidé de façon de partir voyager pour se perdre. Donc là, voilà. Et je m'autorise à pleurer, franchement, à chaudes larmes. À un moment donné, j'ouvre les vannes et on y est, quoi. Donc je pleure, je rigole, mes jambes flagellent, j'ai le cœur qui bat très fort. Je m'adosse au mur pour un peu m'aider à reprendre un peu du reprendre mon souffle. Il y a une touriste qui passe et qui me demande si ça va. Je dis oui, ça va très très bien. Et là, alors que je pleure à fond et que tout va très très bien et que tout est parfait, en fait, c'est une sorte de quoi. Enfin, honnêtement, j'ai pas mieux, mais je crois que c'est une sorte d'orgasme esthétique, en fait. Enfin, absolument rien sexuel, mais tout est parfait. Et en fait, je ressens au fond de moi, en fait, une montée d'émotions suite à de nombreuses stimulations que j'ai laissées venir à moi et ou que j'ai provoquées, et qui progressivement, en fait, éclatent dans cet entre-là de béton. Et je pensais pas que ça arriverait. Et j'étais d'autant plus émue, en fait, parce que je repense à toutes ces références. Et oui, en fait, on y est. La beauté, en fait, la délicatesse et l'intention créatrice de certaines personnes peuvent être complètement chamboulantes, en fait. Et là, moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait, en tout cas, à Naoshima. Et je crois que j'ai trouvé ce que je venais chercher, en fait. C'était juste l'éclatement de la beauté, en fait, dans ce musée-là et dans ces couleurs-là et dans ces formes. Je me sens très loin, je me sens toute petite et en même temps, je me sens remplie et pleine de tout cet environnement ambiant et ce béton, en fait, ce petit béton tout doux, et juste une sorte d'écrin, en fait, une sorte d'écrin qui vient accompagner le paysage environnant. Et ça, c'est absolument grandiose, en fait. Naoshima, pour moi, c'était il y a 3 ans. Et d'une part, ce souvenir reste et demeure comme étant un souvenir très fort et fondateur, et finalement que le début, en fait, de ma vie, en fait, dans le sens où j'ai compris qu'il était extrêmement important que de savoir se perdre, savoir s'ouvrir, savoir s'émouvoir et surtout continuer à regarder, se délecter, en fait, des couleurs, des formes, des rencontres, et que ce soit des rencontres artistiques, je pense que c'est la plus belle chose qui soit, en fait. C'est quelque chose que je cultive et qu'il faut cultiver, je pense, au quotidien, et c'est vraiment, je pense que c'est, depuis Naoshima, je pense que c'est un voyage. C'est vraiment une grande ligne droite de vie, en fait, quotidienne. Je pense que la beauté est un baume, en fait, pour la vie. En tout cas, je le vois comme ça. Je le vois comme étant... la beauté, pour moi, est une réponse, en fait, aux difficultés, aux aléas, aux doutes, aux douleurs de la vie. Et qui vient... elle vient réjouir, elle vient mettre des éclats, en fait, dans le reste de la vie. C'est bien pourquoi, en fait, j'ai envie de l'alimenter, en fait. Moi, j'ai envie d'éclats, de joie, de bonheur dans ma vie. À choisir, si je peux, à choisir, ouais, je le préfère. Donc oui, c'est une grande ligne droite, en tout cas. Regarder droit devant moi, sur les côtés, partout, quoi, en fait. Il faut savoir regarder, en fait.
Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Depuis cette expérience d'éblouissement, Chloé continue de cultiver la beauté et de s'en émouvoir dans son métier de directrice artistique, mais aussi dans les instants quotidiens. Elle m'a notamment raconté qu'elle s'amuse régulièrement dans le métro à regarder toutes les personnes qui l'entourent et à chercher chez elle quelque chose d'unique, de beau, d'émouvant. Que ce soit une façon de se recoiffer, ou un ourlet cousu à la va-vite. Merci à Chloé pour son témoignage et sa confiance. Si vous souhaitez connaître plus en détail les références artistiques qui l'ont nourrie pendant son voyage au Japon, nous vous les avons listées dans les notes de l'épisode. Vous y trouverez également les références de La Légèreté, la bande dessinée de Catherine Meurice. Je remercie les personnes qui m'ont confié leur témoignage d'éblouissement artistique. Margot, Anne-Lise, Blanche, Clément et Alice, dont les histoires m'ont bercée pendant toute la réalisation de ce podcast. Dans l'épisode de demain, nous parlerons des liens entre odorat et émotion pour comprendre pourquoi les odeurs sont si évocatrices de souvenirs. Maud Benakcha est la chargée de production de ce podcast. Cet épisode a été réalisé par Marine Kéméré, mixé par Jean-Baptiste Aubonnet qui s'est également chargé de l'enregistrement, et Nicolas Degélis a composé le générique d'émotion. La composition musicale a été créée par Nicolas Vert et Marine Kéméré. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Si le lien entre émotion et art vous intéresse et que vous êtes curieux de savoir comment cela se passe du côté de la création, je vous conseille d'écouter ou de réécouter l'épisode bonus d'émotion au Centre Pompidou, intitulé « Qu'est-ce qu'on ressent quand on crée ?» Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.